L'entrée en jeu de Wesley Saïd pour remettre les rouges et noirs sur de bons rails. Déjà buteur la semaine dernière à Metz, l'attaquant rennais a égalisé à l'heure de jeu après un bon travail de la recrue Firmin Mubele. Lui aussi bien plus remuant en deuxième période. La rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre dans la dernière demi-heure. Finalement, Rennes et Dijon se sont quittés dos à dos. Un nouveau match nul cette saison pour le Stade Rennais. C'est déjà le 11e en 29 matchs. Aucune autre équipe n'en a concédé autant cette saison en Ligue 1.
Hier également, Guingamp s'est baladé face à Bastia, victoire 5-0. Au classement, les Guingampais sont devant Rennes, 8e, alors que les Rouges et Noirs sont désormais 9e. Et à 21h ce soir, Lorient accueillera le PSG. Et puis en National 1 masculine de basketball, l'Union Rennes s'est inclinée en toute fin de match contre Tarbes, score serré 87-85. Enfin, à noter en cyclisme aujourd'hui, le trophée Louison Bobet Junior est la 18e édition du trophée Jean Floch, 162 km entre Beau et Mauréac dans le Morbihan.
Retrouvez toute l'info de France Bleu sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Il faut sortir les parapluies, Daniel, aujourd'hui.
Oui, on ne les avait pas mis très
hier,
loin.
Mais avant-hier,
on les avait encore. Donc, vous voyez, ça fait pas longtemps qu'on les a rangés, ces parapluies. Des pluies éparses qui se déclenchent sous un ciel nuageux ce matin. Et puis, des pluies qui ont tendance à se multiplier. Un temps pluvieux qui va se maintenir jusqu'en soirée. Et puis, des températures un peu plus fraîches qu'hier. Il faut dire qu'hier, on approchait des 19 degrés. Cet après-midi, on se contentera de 11 degrés sur Saint-Brieuc ou Saint-Malo, 12 degrés du côté de Redon, de Vannes et de Rennes. Donc une journée avec un vent de secteur nord-ouest modéré, ça devrait s'éterniser encore un petit peu pour lundi et puis on devrait ensuite pour la semaine prochaine avoir le retour d'éclaircies, de journées un petit peu moins pluvieuses.
La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Et puis, si vous circulez en Bretagne, pour l'instant, c'est vert, c'est fluide. Donc, sur les principaux axes routiers, pas de difficultés notables. Tout de même, un véhicule en panne sur la Nationale 157, entre Rennes et Laval. C'est à hauteur de Bressé que vous pouvez trouver ce véhicule qui peut déborder sur l'une des voies et donc vous surprendre. Un autre véhicule se trouve sur la rocade à Rennes, cette fois-ci sur le sud-est de cette rocade, entre, on va dire, la route de Lorient et la route donc de Redon, où vous pouvez trouver aussi ces véhicules. On rappelle qu'il faut bien sûr, si vous êtes en panne, que votre véhicule soit en feu de détresse. Il y a aussi le petit triangle rouge si vous êtes avant un virage, et puis il y a le gilet évidemment jaune, surtout avec la visibilité réduite aujourd'hui. D'autres inforoutes, vous pouvez nous les communiquer au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Du soleil, de la pluie, j'ai l'impression que dans le jardin, ça va pas mal avec ce mois de mars. Alors, va-t-on greffer, tailler, bouturer, planter ou admirer? Et en tout cas, on va soigner ces petites plantes avec notre expert jardin, Philippe Munier. Bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Alors, ce mois de mars, effectivement, rétablit un petit peu le manque d'eau que nous avions, et puis les températures qui se radoucissent. C'est vrai qu'on n'est pas encore au printemps, mais ça commence à se rapprocher.
C'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose.
Ouais, c'est clair.
C'est clair.
Donc, on va bien sûr voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le jardin, puis surtout, soignez toutes vos plantes avec vos questions au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et nous partons du côté du Minic sur Rance avec Gilbert. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Gilbert, quelle est votre question?
Alors déjà, un grand bonjour et félicitations à toute l'équipe et Philippe. Alors, ma question est la suivante. Je crois que vous avez déjà répondu, mais j'ai la mémoire qui flanche. C'est au sujet des rosiers. Les rosiers n'ont pas été taillés du tout de la fin de l'année dernière, quoique maintenant ils sont, ça repart bien. Ma question, est-ce que l'on peut encore les rabattre maintenant, c'est la semaine qui vient. J'ai lu sur un bouquin, L'Ami des Jardins, que c'était normalement possible jusqu'à mars. Mais mars, est-ce que c'est début mars?
Bon, fin mars Gilbert, on va laisser passer notre ami du jardin, nous, Philippe Munier. Alors, est-ce que c'est la période pour tailler les rosiers?
Oui, on est en plein dedans. Vraiment, on est en plein dedans, donc il n'y a aucun problème. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars, c'est bien connu. Alors, pour plein de plantes, il y a certaines plante qu'il faut surtout pas tailler en mars, mais c'est vrai que le rosier particulièrement, la taille se fait en mars et on peut même la faire fin mars. Moi, je la fais d'une manière générale, la dernière semaine ou en tout cas la deuxième quinzaine de mars, ça c'est sûr. Je la fais jamais en première semaine de mars parce que souvent il y a des petites gelées tardives. Cette année, il y en a pas eu. Bon, voilà, on sait jamais. Il y en aura peut-être au mois d'avril. Tant pis. Mais voilà, j'essaye de reculer le risque au maximum et ça peut se faire sans aucun problème. On n'est pas obligé de rabattre les rosiers. Ça c'est la méthode dite à la française, mais c'est celle qu'on enseignait dans les écoles d'horticulture jusque dans les années 50. Hein, trois branches, trois yeux. C'est terrible. Alors par contre, c'est vrai que ça fait des très belles fleurs, ça oblige la plante à donner le meilleur d'elle-même, mais ça fait toujours des rosiers assez, des banquettes de rosiers, c'est comme ça qu'on appelle ça, assez, comment dirais-je, trop homogène à mon goût. Hein, moi j'aime bien un peu de folie au jardin. Alors on peut tailler plus long sans aucun problème, sachant quand même que plus on taille long, plus on fatigue une plante, plus on taille dur, puis on la stimule. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et puis sachant aussi que quand on taille sévère, et bien derrière, il faut donner à manger parce que la plante a envie de redémarrer. Donc il faut apporter un très bon compost, très bien décomposé, hein, de manière à ce que la plante puisse en profiter immédiatement.
Voilà Gilbert, pour les rosiers, c'est bien la période. Vous pouvez y aller. Marie est à Teix dans le Morbihan. Bonjour Marie.
Bonjour à Philippe, bonjour à Daniel.
Alors, votre question.
Moi, je téléphonais pour des lauriers roses que je veux rempoter. Et je ne sais pas quel mélange il faut faire.
Alors déjà, pour la saison, vous êtes en plein dedans, là aussi, hein, c'est très une bonne saison pour les lauriers roses, et on peut même aussi, comme pour les rosiers, attendre encore un petit peu, hein, parce que, à moins que vous les gardiez un petit peu à l'abri, dans la véranda, ou sous le garage, le temps que, on va dire, jusqu'à la mi-avril, c'est pas forcément idiot, hein, s'il y a des petites gelées tardives qui passent par là. Le mélange, maintenant, la première chose, le laurier rose a besoin de beaucoup de drainage, c'est une plante qui a besoin d'eau, qui a besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, dans les régions méditerranéennes, là où pousse à l'état sauvage, il est toujours dans des coins pas loin des rivières. Mais par contre, il a besoin d'énormément de drainage. Donc c'est très très important. Il a besoin de boire, mais il a besoin aussi que l'eau ne stagne pas sur ses racines. Donc un drainage est hyper important. Donc en général, le drainage doit faire au minimum un quart et au maximum, idéalement, on va dire un tiers de la hauteur du pot. Donc de la bille d'argile, du gros caillou, si vous en avez, etc. Ensuite, on sépare le drainage du terreau avec un géotextile. Et là-dessus, vous pouvez mettre soit directement un terreau de plantes méditerranéennes qu'on trouve dans les magasins spécialisés, comme on dit, dans les jardineries, qui sont pour la plupart des terreaux de très bonne qualité. Hein. Donc, il suffit de prendre celui qui est un petit peu plus cher. Et en général, pour l'instant, pourvu que ça dure, le prix des terreaux est encore corrélé à leur qualité. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez faire vous-même un mélange avec un tiers de sable grossier, un tiers de terre de votre jardin si elle n'est pas trop trop lourde, et puis un tiers de, alors soit que du compost si vous voulez vraiment les booster, et là ça les booste sévère, soit le dernier tiers vous le mettez moitié compost, moitié terreau universel, terreau plante fleurie, hein, moitié, et là ça les booste un petit peu moins, mais par contre ils durent plus longtemps, ça les fatigue un petit peu moins. Donc voilà, c'est le mélange classique, mais sinon si vous voulez pas vous casser les pieds, il y a des très très bons terreaux plantes méditerranéennes qui sont tout à fait bons pour les Pour les lauriers roses.
Voilà Marie, ça répond à votre question. Vous n'avez plus qu'à maintenant trouver le bon compost et puis faire et suivre les conseils de Philippe Loudéac. Janine, bonjour Janine.
Bonjour.
Ah ça c'est un joli bonjour de dimanche. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien écoutez, j'ai beaucoup de mouches partout dans mon jardin comme il n'y en a jamais eu. Dans les allées, évidemment dans la pelouse, mais dans les allées, partout, je ne sais pas comment l'enlever, bien sûr que oui avec une raclette là, mais où déposer cette mouche, faut pas la mettre dans le compost je pense.
Aussi au contraire, aussi ah bon au contraire. Oh là là, oh là, la mousse, ça fait un compost. Moi, je mets la mousse à composter dans un coin spécial parce que je fais avec un compost qui me sert à nourrir mes plantes vertes et mes orchidées. Enfin, oh alors pas toutes les orchidées, hein, pas les phalaenopsis, mais toutes les orchidées terrestres. Ça fait un compost d'une douceur, d'une qualité, un côté fibreux qui est tout à fait extraordinaire. Donc surtout, ne jetez pas la mousse. Ça fait un magnifique compost. C'est tout à fait génial. Donc la mousse, effectivement, faut la racler. Et puis si vous n'aimez pas trop avoir de la mousse sur les allées, alors je sais pas, vos allées, elles sont en terre tassée simplement, elles sont en il y a un revêtement dessus, il y a quelque chose.
C'est pas facile, non, il y a certains endroits où c'est facile. Là où il y a un genre de matière dure, quoi, c'est assez facile. Mmh. Mais là où il y a des gravillons, c'est impossible.
Ah oui, là, effectivement, c'est pas facile. Non. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que la mousse, c'est quand même une plante qui adore l'acidité, hein, oui. Donc et l'humidité. Ce que vous pouvez faire sur les lieux les plus difficiles, comme le gravillon, juste, c'est d'arroser éventuellement avec de l'eau dans laquelle vous mélangez du carbonate de calcium, hein, de la chaux, voilà. Et le fait de simplement casser un peu le pH, alors faut pas en mettre des tonnes non plus, hein, de casser le pH, ça va limiter énormément la croissance de la mousse et donc du coup vous aurez moins de travail à faire. Donc tout ça vous pouvez le faire une à deux fois par an. Donc si vous le faites deux fois par an, c'est une fois en, on va dire grosso modo, octobre et avril. Si vous le faites qu'une seule fois, c'est le mois d'octobre. Hein. La meilleure période, c'est le mois d'octobre. Oui. Et en général, ça suffit à casser l'acidité du sol et donc ça limite énormément le développement des mousses. En ce qui concerne la pelouse, il faut aussi faire un apport de carbonate
à
l'automne. Et puis surtout les revêtements un petit peu durs, vous frottez simplement avec de l'eau et un petit peu de cristaux de soude qui là aussi est...
Oui.
Et oui, les cristaux de soude, c'est tout bêtement basique. Donc toujours pareil, ça casse l'acidité. Donc juste d'abord, et puis ça lave très bien. Donc juste de frotter tous les endroits, les terrasses, les bords de chemin un petit peu moussus. Et un petit peu d'eau, un petit peu de cristaux de soude, un petit peu d'eau tiède. Et ça marche très très bien et ça revient très lentement.
Voilà, merci pour votre question Janine. On va repartir avec une petite pause musicale et puis on retrouvera Liliane et Valérie qui nous attendent pour d'autres questions Jardin Bleu.
France Bleu. Les charmes de l'hiver, les reflets de la pluie, les curiosités des grandes marées. Toutes les idées sont les bienvenues. Vous aussi, mettez en avant votre coin de Bretagne et postez vos plus belles photos sur la page Facebook de France Bleu Armorique.
Bienvenue à Cuba.
La Havane vous donne rendez-vous à la Foire Internationale de Rennes. 9 jours pour découvrir l'histoire de Cuba. Danseurs de salsa, musiciens et chanteurs vous entraîneront dans une rue de la Havane reconstituée.
Le parc se transforme en un immense village de fêtes. Gastronomie, santé, bien-être, sport, loisirs, habitat, décoration, agriculture et jardin. Nouveau cette année, un pôle aérien et une course de drones.
La Foire Internationale de Rennes, du 18 au 26 mars. Entrée gratuite le samedi 18. Programme complet sur foiredereennes.com.
Tout l'esprit de la Bretagne sur France Bleu Armorique.
Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure.
On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi.
Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça changera rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain, de bon matin, je pars seul sans. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. passer jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller.
Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc.
Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Et rempassant mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit.
Si je croise un ou de vos rien en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien.
Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui ont fait de moi un dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. J'ai pas dit l'heure que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
De bon matin, le nouveau titre du groupe Boulevard Désert sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Le Jardin Bleu avec Philippe Munier, vos questions. Nous aurons dans un instant Valérie qui a des problèmes de plantes pour tapisser ses talus. Et tout de suite, Liliane qui est à Guillac. Bonjour Liliane.
Bonjour à tous. J'ai un gros souci avec du mouron, plein le jardin, plein le champ. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît?
Ah, alors déjà, il ne faut pas se faire trop de mourons, hein, c'est pas bien, ça, ouais, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est ce qui est plutôt rassurant, c'est que lorsque l'on a du mouron qui pousse, ça indique que c'est une plante indicatrice d'un sol en parfaite santé, en parfait équilibre. Ça veut dire que vous avez, ces dernières années, parfaitement nourri votre jardin et votre champ. Et donc, c'est bien pour les légumes, c'est bien aussi, malheureusement, pour le mouron. Donc, ça, c'est un petit peu plus. D'un côté, c'est bien. Ça rassure. D'autre côté, on est un petit peu embêté avec cette plante-là. Alors, ce qu'il faut, malheureusement, c'est le mouron, c'est le binet. Mais on n'est pas obligé de faire que ça. Si vous aimez les saveurs douces et noisettes, mangez le mouron, parce que c'est du mouron blanc, hein, je précise bien, du mouron blanc, hein, oui. Toute petite. C'est parfaitement comestible et c'est parfaitement délicieux. Donc vous pouvez en cueillir des pousses. Hein, moi j'en ai de temps en temps dans la serre. Dans la serre, il a tellement chaud qu'il fait des grosses feuilles. Il est bien nourri aussi. Donc je le cueille et je le mélange à la salade et ça fait vraiment des salades tout à fait. Ça donne un petit parfum très vraiment printanier, délicieux. Donc ça, c'est aussi, bon, on va dire, une manière de ne pas dire je fais ça pour rien. Au moins, on peut en manger un petit peu. C'est tout. Mais sinon, binez-le, mettez-le sur le compost. Et plus vous le binez tôt, quand il est petit, moins il fait de graines. Et moins il fait de graines, moins il repoussera. Donc voilà, c'est le but du jeu, c'est surtout de l'empêcher de fleurir et de grainer, parce que sinon, dès qu'il y a de la graine, ça repousse. Donc le jeu, c'est vraiment le binet le plus régulièrement possible pour pas qu'il fleurissent et donc qui grainent, et on arrive à le limiter de manière tout à fait intéressante, hein, sans se fatiguer trop non plus.
Voilà donc pour cette question, Liliane. Puis c'est bien, on a appris que le mouron est comestible. C'est vrai qu'on peut en faire des potages. Je crois que c'est très très utilisé au Japon, puis aussi en tisane. Et c'est très riche en vitamine C. Donc voilà, on a que du bonheur.
Absolument, en ce moment, au printemps, en plus, on a besoin d'un petit coup de pouce de vitamine C, donc allons-y gaiement.
Eh ben allons-y, il n'y a pas de problème.
Si c'est bon pour nous, je peux en donner aussi à mes poules.
Oui, alors elles adorent ça, moi j'en donnais beaucoup à mes poules, elles adorent ça, il n'y a pas de problème.
Voilà, vous allez faire des heureuses, Liliane. Merci, et bon dimanche. Valérie est à Elvin, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, Daniel et tous les auditeurs.
Bonjour à vous, alors votre question, Valérie.
Alors moi, j'espère que c'est pas une question trop nulle, entre guillemets, mais ça fait des années que j'ai planté, ou en tous les cas essayé de fleurir deux talus qui bordent une allée, donc qui va vers ma maison. C'est quand même des talus, je sais pas, il y a mettons 20 mètres de chaque côté, et jamais les plantes ne prennent ou ne s'enracinent. Voilà, j'avais une autre question, j'ai pensé là en vous écoutant sur le rumex, parce que j'ai une invasion de rumex là qui
pollue. Alors, non, doucement, parce que on a beaucoup de monde. Question. La première, je pense, c'est la plus importante, c'est ce qui vous intéresse, c'est savoir pourquoi sur les talus ça pousse pas. Hein. C'est un peu ça la question. Maintenant, on ferait peut-être savoir ce que vous avez mis, cher Philippe.
Déjà, d'un point de vue général, les talus, ce ne sont pas des endroits faciles à aménager. Ça, faut être clair là-dessus. C'est jamais facile parce que d'abord, c'est en pente, donc l'eau reste peu, donc faut que ce soit des plantes qui s'adaptent à ça. Ensuite, il faut faire très attention à l'orientation. Donc, s'ils sont face à face, il y en a un qui est à l'ouest et l'autre qui est à l'est, ou il y en a un qui est au sud et l'autre qui est au nord. Donc, c'est des plantes différentes qu'il faut mettre de l'un sur l'un et sur l'autre. S'ils sont plantés d'arbres, de vieux arbres, hein, des arbres de talus, des chênes, des hêtres, des etc. Ces plantes-là, elles pompent dedans et elles font de l'ombre. Donc, il faut trouver des plantes qui acceptent l'ombre. Le talus n'est pas un endroit facile à aménager. On peut y arriver, mais c'est assez compliqué. Il faut vraiment prendre le temps de sélectionner les plantes, de les planter dans les meilleures conditions. Alors, il existe... Je ne vais pas tout vous le dire maintenant, parce qu'il y en aurait pour des heures, on pourrait faire une conférence que là-dessus, mais il existe aussi sur Internet plein de choses, hein, sur les plantes couvre-sol, et il faut vraiment, première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est de bien regarder vos talus, il y a combien de mètres qui sont plantés, est-ce que c'est planté avec des grands arbres, du coup ça fait combien d'heures d'ombre par jour, qui est au nord, qui est au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, enfin bref, quelle est l'orientation. Et là, une fois que vous avez bien, cerné tout ça, vous allez sur Internet, vous tapez choix couvre-sol ou quelque chose comme ça, et là, vous trouvez plein de sites, dont certains très bien, d'autres certains malheureusement moins bien. Et sur Internet, c'est comme partout, il y a des choses très bien et des choses complètement nulles, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même pas mal, même plutôt très bien, qui vous permettent, je cherche une plante rampante, couvre-sol, qui supporte l'ombre et l'orientation nord, et il vous sort une liste de plantes qui supporte ça. Donc c'est après à vous à choisir, à les regarder, etc. C'est tout un travail. Le paysagisme d'une manière générale, c'est vraiment tout un travail, c'est un métier aussi, donc il faut prendre le temps de le faire, et si vous le faites bien, que vous prenez le temps de bien choisir vos plantes, eh bien en général les plantes se sont bien, et donc ça pousse bien.
Voilà, il ne faut pas évidemment dire tiens, je vais mettre ça au hasard, il faut bien étudier la question. Voilà pour cette réponse, Valérie. On va à Vannes maintenant avec Marcel. Bonjour Marcel.
Bonjour Philippe et toute l'équipe. J'ai une petite question. J'ai acheté en automne deux sacs de terreau dans une grande surface bretonne. Je ne les ai pas utilisés tout de suite, hein, c'était pour mettre sur mon petit potager qui a 15 mètres carrés. Et puis, ils sont restés dehors l'hiver, mais le sac fermé. Quand j'ai voulu les ouvrir il y a deux jours, c'était recouvert de moisissures, 2 mm, 3 mm. J'ai écarté la moisissure, et puis même à l'intérieur, c'est tout blanc. Que dois-je faire de ce terreau? Est-ce que je peux l'étaler quand même sur le potager?
Oui.
Voilà ma question.
Oui, oui, la réponse est d'emblée oui. Hein. Alors déjà, quand on achète du terreau, il vaut mieux l'acheter au fur et à mesure des besoins et pas l'acheter en avance. Hein, dans la mesure où les jardineries ont en général beaucoup de volume de circulation, ce qui fait que le terreau que vous voyez arriver, que vous achetez, ben il est frais, il a été fabriqué ou en sachet assez récemment. Donc il n'y a pas ce phénomène de fermentation que vous avez pu observer. Une fois que vous l'achetez, il prend l'humidité de dehors, si vous le laissez dehors, les champignons continuent à se développer, c'est leur boulot, et donc ces points blancs, c'est simplement des petits bouts de bois, des petits bouts de feuilles, des petits bouts de... parce que c'est dans le terreau, c'est la matière organique, hein, qui sont couverts. Le blanc, c'est du moisi, c'est ce qu'on trouve sur le camembert ou à l'intérieur du roquefort. Dans le roquefort, c'est vert, sur le camembert, c'est blanc. Donc voilà, c'est des petits champignons qui se développent et qui bouffent de la matière organique. Donc il y a pas de problème, c'est un compostage. La seule chose, c'est qu'enfermé dans sac plastique, ça a plutôt tendance à fermenter, c'est en absence d'oxygène, et c'est un petit peu moins bon. Donc vous pouvez, sans aucun problème, mettre ce terreau sur votre petit potager. Par contre, faites-le, on va dire, 8-10 jours avant de faire une plantation, de façon à ce que le terreau ait le temps de se réoxygéner. Là, vous l'avez privé d'oxygène depuis tout l'hiver, si j'ai bien compris. Et ben, réoxygénez-le un petit peu avant de planter quoi que ce soit dedans.
Eh ben voilà, Marcel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'autres questions dans un instant, toujours au 02 99 67 35 35, Jardin Bleu, c'est jusqu'à 10h.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35. France
Bleu. Bonjour, c'est Glenn Jeglik. Reyarantor, Emgav, Zardan, Azul et Tricrèche-Nanterre, Hagener et Vide, Zugolabemde. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche de 12h30 à 13h pour Zugolabemde et Brezonek en breton. L'actualité de la langue bretonne et de la musique d'ici, les rendez-vous festifs et sympathiques, c'est Zugolabemde sur France Bleu Armorique.
Énergie, l'inventeur de la garantie 10 ans.
C'est parce que nous sommes le premier réseau de chauffagistes indépendants que nous assurons l'installation et l'entretien, que nous pouvons garantir votre chaudière 10 ans. Un nouveau système de chauffage, c'est plus d'économie, plus d'écologie et plus de confort. Et avec l'offre Eco-Bonheur, Axe Énergie garantit 10 ans votre nouvelle chaudière.
Offre soumise à condition. Contactez votre artisan Axe Énergie le plus proche sur axeenergie.net. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
France Bleu Armorique, tous les jours avec vous.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. My heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for. Spirit, it's my dreams you take, and as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've
watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
I love, allez, au revoir. James Blunt sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on est avec vos questions qui nous viennent d'un petit peu partout encore, comme chaque dimanche, sur France Bleu Armorique. Questions au jardinage. Et Bernard est à Saint-Barnabé. Bonjour Bernard.
Philippe, bonjour l'équipe de France Bleu. J'ai une question à poser. C'est les cerisiers. J'ai quelques cerisiers qui font 7 à 8 mètres de hauteur. Et tous les ans, je coupe en février des tiges qui poussent de 30 à 40 cm environ. Parce que normalement, les fruits à noyaux doivent être taillés normalement après les fruits. Je le sais, ça vous l'avez dit déjà. J'écoute la mission assez régulièrement.
Ça, c'est bien, c'est bien.
Puis, mais bon, je vois que c'est pas facile. Je l'ai fait, mais c'est pas facile puisqu'il y a des feuilles. Donc, j'ai préféré. Puis, on voit pas pareil pour les tailler. Donc, j'ai préféré les tailler en février. C'est plus facile. Il y a plus de feuilles. Et puis, bon, je vois que c'est propre. Ça fait bon. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui risque? Alors, qui risque d'avoir en les faisant comme ça.
Est-ce que vous allez vous faire gronder ou pas? C'est ça la question.
Non, je gronde pas, mais en fait, le problème des arbres à noyaux, c'est qu'ils ont besoin d'être en sève pour bien cicatriser. Donc, lorsque vous coupez en février, l'arbre commence à monter en sève, il n'est pas à fond, et donc la cicatrisation des plaies de taille se fera pas aussi bien. Et bilan de l'opération, il se peut des contaminations, des maladies puissent rentrer par la plaie de taille et puissent attaquer votre cerisier, ou que ça le fatigue de cicatriser à ce moment-là, alors qu'il a autre chose à faire. Il a des fleurs à faire sortir, il a des fruits à bientôt préparer, donc il a autre chose à faire qu'à cicatriser. Donc l'idéal, c'est quand même de le faire juste après la récolte, hein, en plein été. C'est vrai que c'est en pleine feuille, c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est vrai que si vous faites tomber des grosses branches, mais c'est pas le but du jeu, vu que sur les arbres à noyaux, on essaye de tailler toujours le plus petit possible. Si on taille régulièrement, c'est tout à fait faisable, hein, en taillant tous les ans, il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, ben, on voit de toute façon se profiler la branche qui part dans le mauvais sens, et si on la prend suffisamment jeune, en fait, on n'est même pas obligé de la tailler, on peut juste la pincer, hein, l'enlever avec l'ongle, tellement le bois est tendre en pleine sève, alors que c'est vrai qu'à l'hiver, le bois se sera outé, se sera durci, et ça sera plus difficile à faire. Donc voilà, moi je vous dis que le mieux, c'est en plein été, même si c'est pas le plus facile à faire. Après, vous faites ce que vous voulez, sachant que l'arbre, lui, un jour, il vous dira peut-être qu'il n'est pas content.
Voilà, c'est le risque. Mais en tout cas, vous avez bien fait de poser cette question, Bernard. Maurice, à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai un pachyra. C'est des feuilles vertes, là. Et elles ont tendance à jaunir. Parfois, il y a un peu de des taches marron aussi. Et puis, et au milieu des du marron, là, ça devient tout à fait sec, tout à fait jaune.
Bref, c'est pas très beau tout ça, en fait. Hein. Pachyra, c'est une plante.
Ouais. Bon, il y a des feuilles qui arrivent à se couper en deux carrément. Là.
Alors, c'est une plante d'intérieur, hein, le pachyra.
Ouais. Oui, c'est une plante, c'est une plante typiquement de comment dirais-je, de terrain chaud, drainant. Faut faire très attention. Les symptômes que vous donnez là, c'est les symptômes typiques d'un excès d'eau. Hein, faut faire très très attention. Ce sont donc des plantes d'origine africaine, Madagascar et compagnie. Parce qu'il y a plusieurs pachyras en fait, hein, qu'on trouve dans le commerce de la floristerie. Et en fait, il faut faire vraiment très très attention. Ce sont des plantes qui ont besoin d'un très très bon drainage et des arrosages vraiment ciblés. Il ne faut pas leur donner à boire une fois par semaine. Il faut leur donner à boire que si elles ont soif. Hein, donc il faut pas avoir peur de mettre. Alors vous choisissez si vous avez une collection de 5 doigts. Hein, vous choisissez celui qui marchera le mieux. Moi, le mien, c'est l'index. Hein, c'est mon meilleur hygromètre. Donc je mets le doigt dans le terreau. Et si c'est sec, et ben c'est que la plante a soif. Si c'est encore humide, et ben c'est qu'elle n'a pas soif. Et donc, je ne lui mets surtout pas d'eau. Et dans ces conditions-là, vous aurez des belles feuilles. Hein, c'est des belles feuilles palmées qui se développent et qui sont vraiment des très, très jolies plantes. Hein. Donc, mais par contre, dès qu'il y a un excès d'eau, il vous le fait savoir immédiatement par du jaunissement, par des feuilles, bah, du coup, fait qu'elles sont jaunies, les champignons attaquent, la plante est en mauvaise santé, et on rentre dans une espèce de courbe infernale qui fait que souvent ça se termine par la mort de la plante. Donc faites très très attention à ça, et si par hasard vous avez replanté la plante et que vous n'avez pas fait attention, comme je le disais tout à l'heure pour le laurier rose, à faire un drainage très important, et ben il est largement le temps de le faire maintenant, hein, de refaire un rempotage avec un drainage qui fasse au minimum un quart de la hauteur du pot et idéalement un tiers de la hauteur du pot.
Et ben voilà, vous avez du travail, voilà ce qu'il vous reste à faire. Maurice, bonne journée. On va faire on va accueillir Monique qui est à Pont-Orson. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les petits jardiniers, là, je sais pas.
Et les grands aussi, voilà, toutes les tailles. Voilà.
Bon, moi j'ai un petit souci parce que j'avais, il y a 2 ans, que j'achète des ricins. Et puis la première année, j'ai pas gardé de graines parce que je ne savais pas. Et j'ai revu des petits arbustes qui poussaient finalement. C'était eux qui repoussaient. Bon, enfin bref, et là cette année, j'ai récupéré les graines, mais je sais pas comment les faire prendre en bouture. S'il faut enlever le petit boc qu'il y a autour, ou alors récupérer les 3 petites graines qu'il y a à l'intérieur.
Alors.
Voilà.
Bah c'est tout simple, hein. Il faut récupérer les graines qui sont à l'intérieur, ça fait des grosses graines un peu comme des graines de haricots, même un petit peu plus grosses, voilà. Et ça, le ricin, il faut, alors faites attention, la plante est une plante qui est toxique, hein. Il n'y a que quand on fait de l'huile de ricin que ça ne l'est pas trop, mais la plante est toxique, c'est à manipuler, on se lave les mains après manipulation, on se met pas les doigts dans la bouche non plus pendant qu'on sème le
rubin. Si c'est mon pouce.
C'est bien. Bon, voilà. Non, mais bon, je préfère donner les conseils. Parce que comme ça,
bien sûr.
Voilà. Et puis, par contre, c'est une plante magnifique. Hein, donc, il faut attendre tranquillement, on va dire. Fin mars, début avril pour les semer à l'intérieur de manière à les mettre en place à partir du moment où, hein, c'est un petit peu comme les tomates, hein, on les sort quand les grosses gelées ne sont plus à craindre, donc grosso modo aux alentours du 15 mai. À partie qui résiste peut-être un tout petit peu plus au froid que la tomate, et encore, c'est même pas sûr. En tout cas, quand il est jeune. Et après, vous le mettez. C'est une plante qui est gourmande, donc c'est à mettre dans une terre vraiment bien, bien riche, avec un bon compost très bien décomposé. Et ça vous fait une plante tout à fait magnifique, avec des grosses feuilles là, tout à fait superbes. Et en plus, vous avez des ricins à feuilles rougeâtres et d'autres à feuilles verdâtres. Donc, on peut les associer. Ça fait vraiment des très beaux massifs. vraiment, oui, vous avez raison, profitez-en. Je le dis, je le répète quand même, parce que c'est une plante qui est toxique. Donc, on fait attention à ce que les enfants n'aillent pas jouer dedans.
Ouais, c'est bien de prévenir plutôt que de guérir. Voilà pour cette question sur les ricins avec Monique. Petite pause, et puis on retrouve dans un instant Daniel et Marie-Yvonne.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
À toi. L'avez-vous reconnu, ce garçon qui, il y a quelques années, chantait seul sur le sable, les yeux dans l'eau? C'était Rock Voisine.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et avec vos questions, on va à Guerne avec Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Philippe.
Ça vous a un joli prénom, Daniel. Hein.
N'est-ce pas?
Ah, oui, franchement.
C'est vrai, c'est le meilleur. C'est le meilleur.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Voilà, j'ai des pruniers de pays et depuis 2 ou 3 ans, au mûrissement, il y a une pourriture qui s'installe, c'est incroyable. Le fleurissement impeccable, et donc les prunes se présentent. Et quand elles commencent à mûrir, il y a plein de petites taches blanches qui se forment dessus. Mais c'est la folie, quoi. Je vous dis, à peu près, il y a plus d'une moitié qui tombe, quoi. Et ça, je n'avais pas avant. Alors, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a éventuellement, ou ça vient du terrain, est-ce qu'il y aurait éventuellement traitement, pas traitement, parce que, on n'aime pas beaucoup ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et ça vient de quoi?
Alors, beaucoup de questions, mais en fait, oui, il y a un problème au départ avec ce prunier.
Alors, en fait, vu ce que vous décrivez, il s'agit, à mon avis, de la moniliose des arbres à noyaux, hein, donc qui est un champignon qui est de plus en plus présent en Bretagne, malheureusement, et pour les arbres à pépins aussi, d'ailleurs, les deux, c'est deux champignons différents, très très proches, mais il y en a un qui attaque plutôt les arbres à noyaux, l'autre plutôt les arbres à pépins, et cette moniliose, elle est de plus en plus présente en Bretagne, hein, depuis une quinzaine d'années, on la voit d'année en année, dans vos questions aussi, j'entends de plus en plus de questions concernant ces moisissures très particulières. Effectivement, c'est des petits points blancs qui sont souvent en cercle concentrique, hein, qui se développent à une vitesse phénoménale d'ailleurs, et qui momifient, en fait, si on ne fait rien, si on n'enlève pas le fruit en train de pourrir, et ben, très souvent, il reste sur l'arbre momifié, desséché complètement. Il faut absolument l'enlever, parce que sinon, pendant l'hiver, avec l'humidité de l'hiver, il continue à balancer, à contaminer l'arbre. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est la moniliose. Alors, après, pourquoi est-ce qu'elle est là? Sans doute parce qu'il fait un petit peu plus chaud qu'il y a quelques années, qu'elle se développe d'autant mieux. Il y a peut-être aussi des excès d'azote dans le sol, il faut faire attention. Hein. Plus une plante a d'azote, elle fait des belles grosses feuilles magnifiques, mais par contre, plus elle est fragilisée. Donc ça fait une surface supplémentaire pour tout un tas d'attaques. Il faut faire attention à nourrir les arbres, mais pas trop. Mais souvent, ça peut arriver aussi, vous parliez de pruniers de pays, donc souvent c'est des pruniers de talus que dans des endroits qui ne sont pas particulièrement nourri, et mais malheureusement la moniliose est là. Il faut faire attention, les champignons se développent dans des endroits qui sont pas très aérés, donc il faut faire attention à peut-être faire des tailles d'aération de vos pruniers, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en prévention, il y a le cuivre, même si je ne suis de plus en plus contre le cuivre dans les jardins, parce qu'on sait qu'une fois qu'on l'a mis sur les feuilles, ça agit contre le champignon, mais une fois qu'il est arrivé dans le sol, ça agit contre les champignons utiles du sol, donc qu'on détruit son sol en voulant protéger ses plantes, et une plante qui vit dans un sol détruit forcément ne sera pas en forme. Donc c'est là aussi, on est dans des cercles vicieux, il faut faire très très attention à ce genre de choses. Donc essayez plutôt de passer par la protection. Alors il y a les purins de plantes, particulièrement les plantes riches en scie comme la consoude, la prêle et la fougère, et puis éventuellement les huiles essentielles. J'ai parlé régulièrement à ce micro de l'huile essentielle de sarriette, qui a un très bon effet contre les champignons, et qu'on peut faire des traitements en cours de végétation sans aucun problème.
Voilà donc Daniel pour ces conseils plutôt préventifs, en tout cas pour améliorer la situation de vos pruniers. Marie-Vonne à la Trinité-sur-Mer. Bonjour Marie-Vonne.
Bonjour, bonjour à tous.
On vous écoute, oui, vous êtes en direct avec nous.
Oui, donc je voudrais dédoubler des agapanthes qui sont en pleine terre. Est-ce qu'il faut couper les feuilles avant de les transplanter? Et les racines aussi, quelle longueur il faut laisser pour les replanter?
Alors, moi, personnellement, je suis surtout en plus dans le sud-Bretagne, je suis plus partisan des dédoublements faits à l'automne. Hein, fin d'été, début d'automne. Bon, parce que je trouve que la plante se réinstalle mieux, que ça lui laisse l'hiver pour se reposer, et les hivers en sud-Bretagne ne sont pas trop froids, à part peut-être cette année, et du coup, elle redémarre mieux, elle refleurit mieux dès l'année suivante. Mais on peut quand même le faire maintenant, même si vous n'aurez pas de fleurs, ou en tout cas, si elle veut fleurir, faut l'empêcher. Hein, pour cette année, parce qu'une plante ne peut pas faire en même temps des racines et des fleurs. Si elle fait des fleurs, elle ne fait pas de racines, donc elle se fatigue et elle est moins belle encore l'année suivante. Donc vous pouvez les déplanter, sachant que les agapanthes ont des réseaux racinaires énormes et qu'il faut une grosse masse de racines gorgées de nourriture pour que l'agapanthe fleurisse bien, parce que la fleur d'agapanthe tire beaucoup, hein, c'est des grosses fleurs, donc ça tire beaucoup sur la plante. Il y a besoin de beaucoup de matière nutritive. Donc si vous les déplantez, ne coupez pas les feuilles, ça sert à rien. Par contre, essayez de garder un volume de racines suffisant et de ne pas faire des plants trop petits. Il faut faire au moins des plants avec 4-5 démarrages, de manière à ce que la plante puisse redémarrer, se réinstaller le plus vite possible pour être en fleur dès l'année prochaine.
Et ben voilà donc pour ces agapanthes et ces excellents conseils. Claude est à Penvent, c'est ça? Allô?
Non, Penvénan,
c'est où?
Claudine.
Ah, voilà, Claudine. Alors, ravie de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, voilà, on doit faire un agrandissement du garage, mais au bout, j'ai un pied d'oseille et un pied de cerfeuil perpétuel.
Je voudrais savoir comment pouvoir les garder, enfin les récupérer et les déplacer.
Alors là, il n'y a aucun problème, on est pile poil dans la bonne saison. Donc vous pouvez déplanter votre pied d'oseille et votre pied d'ache hein, ou de céleri perpétuel et vous les replanter dans un autre endroit du jardin qui soit bien exposé, où la terre soit suffisamment substantielle, parce que ce sont deux plantes qui, si on veut qu'elles aient pas des goûts trop forts, il faut les mettre dans un sol un petit peu bien nourri. Hein, si vous les mettez dans un sol pauvre et sans les arrosages, elles ont des goûts trop marqués, hein, un petit peu agressifs même. Donc ça repart. On est vraiment dans la meilleure période pour ce type, pour transplanter ce type de plante.
Voilà, donc pas de problème particulier. Voilà, Claudine, bonne journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir et bonne journée.
Et puis, juste une question de Abdel qui n'est pas avec nous, mais qui nous a laissé sa question. Est-ce qu'il faut diluer le bicarbonate de soude pour améliorer le jardin ou le garder brut, demande-t-il.
Alors, non, il faut toujours diluer, hein. Vraiment, absolument, toujours diluer. On est suivant les différentes utilisations du bicarbonate au jardin. En général, c'est des pulvérisations foliaires pour lutter ou en tout cas pour prévenir contre certains champignons. Et on est sur des dosages qui vont de la cuillère à café par litre à deux cuillères à soupe maximum. Hein. Donc, faut vraiment y aller mollo et ne pas. Je sais que j'ai vu une fois sur un site internet où il disait de carrément poudrer le sol avec du bicarbonate de soude. Là, je suis pas fanat du tout de ce type de d'action. Donc faites-le si vous voulez, mais c'est pas moi qui vous l'aurais conseillé.
Hein. Ouais, c'est pas une bonne solution en tout cas.
Non, je pense pas.
Voilà, donc les bons conseils. Et c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter pour aujourd'hui en se donnant bien sûr rendez-vous dimanche prochain. Puis comme d'habitude, un petit conseil avant de se dire au revoir, Philippe.
Alors en fait, j'ai pas beaucoup de conseils de sortie pour ce week-end. Hein, j'en ai même pas du tout pour la zone Haute-Bretagne. Par contre, sachez que la semaine prochaine, on se rapproche du printemps. Ouais. Et là, ça va bouger dans les jardins, dans les villes, dans les villages. Ça sera par exemple le marché aux plantes d'Andelle, hein, qui est en général le premier marché aux plantes du printemps dans les Côtes d'Armor. Il y aura ça toute la journée. Mais il y aura plein d'autres choses dont je vous parlerai dimanche prochain.
Voilà, donc on attend dimanche prochain avec impatience et puis justement on regarde quelles sont les manifestations, on peut échanger peut-être des plantes et échanger les conseils comme on le fait chaque dimanche avec vous. À dimanche prochain, Philippe.
À dimanche.
Au revoir.
Vous faites aimer le cinéma. Juliette a 40 ans et un tout petit problème.
Je suis incapable de faire le moindre choix.
Surtout quand elle croise la route de Paul, puis d'Étienne, tout aussi charmant.
Tu veux bien être ma femme ?
Do you want to be my wife ?
L'embarras du choix. La nouvelle comédie d'Éric Lavenne avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducret le 15 mars au cinéma.
Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision.
Les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
Un instant, Brigitte Hugues pour l'actualité sur France Bleu Armorique. Et puis ensuite, on cuisine ensemble. Allez, vos recettes, bientôt.
Jedi.